Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec Perrine Suquet, Margot Agnès, aujourd'hui avec Marc Bisset à la technique de l'heure du crime. Et ce sujet incroyable, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Vincent Parisot et Christelle Rebière, cette histoire incroyable et cette question surtout, comment une fausse experte psychologue auprès des tribunaux a-t-elle pu berner autant de juges d'instruction, de magistrats responsables des affaires familiales, réaliser plus de 400 expertises en quelques années, sans que jamais personne ne s'aperçoive que cette femme avait en fait de faux diplômes. D'ailleurs, son seul vrai diplôme, à ma connaissance, c'était le BEPC, le brevet des écoles. Donc voilà, le brevet des collèges. Alors, nous allons parler de cette affaire, la décrypter, essayer de comprendre ce qui s'est passé, parler aussi des conséquences de ces expertises faites par quelqu'un qui n'en avait pas les compétences, parce qu'il y a eu des conséquences très très graves pour certaines personnes. On aura d'ailleurs un témoignage dans cette émission dans un instant. Mais d'abord, on revient au moment où tout a éclaté. C'était sur RTL, en tout cas le 11 mai 2009. Jean-Marc Terrier racontait ce jour-là dans RTL Midi comment cette fausse experte avait été démasquée.
C'est une enquête des gendarmes concernant cette femme de 53 ans qui a priori n'avait rien à voir avec cette histoire, qui a permis de révéler cette incroyable situation. La fausse psy était pourtant en apparence bardée de diplômes, une licence, une maîtrise de psychologie, un DSS de psychologue de l'enfance et de l'adolescence. Sur le papier, cela présente bien, mais tous ces documents étaient faux. Il n'empêche qu'avec cela, elle était bien enregistrée sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux. Et de janvier 2005 à juillet 2008, elle a réalisé plus de 400 expertises. En mars dernier, elle dressait encore le profil psychologique d'un violeur en série devant les assises de Dordogne. Alors la question qui se pose, c'est comment cette femme a pu en arriver là? Eh bien, il existe des procédures apparemment très complexes pour se faire enregistrer comme expert, mais visiblement, les filtres n'ont pas fonctionné. C'est un des points que devra éclaircir l'information judiciaire qui a été ouverte. En ce qui concerne les dossiers traités, les jugements ne seront pas remis en cause. Quant aux dossiers en cours, de nouveaux experts seront désignés. Mis en examen le 30 avril dernier pour usage de faux, usurpation de titre de psychologue et usurpation de qualité d'expert judiciaire, elle encourt une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Oui, et Régine Labeur, donc cette fausse experte, a été condamnée en 2012 à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Quant au poteau rose, on va tout de suite en parler avec mes invités. J'ai pu réunir, pour qu'on comprenne mieux cette histoire, qu'on la décrypte ensemble, Maître Sylvie Novakovic, bonjour.
Bonjour.
Bien connu évidemment des auditeurs d'RTL et maintenant des auditeurs de l'heure du crime, parce que vous avez été au cours de ce procès l'avocate de Sylvie Bossu, qu'on entendra tout à l'heure, qui est une femme qui a perdu la garde de ses enfants à la suite d'une expertise de Régine Labeur. Ça nous fait comprendre que derrière, c'est vrai que c'est une histoire qui amène le sourire, quoi. Hein. Bon, voilà, une fausse experte, des diplômes qu'elle a concoctés, je sais pas, sur sa cuisinière, avec son BEPC, mais enfin, il y a des conséquences quand même qui se sont révélées terribles. Et puis, pour qu'on comprenne mieux peut-être la psychologie, sans mauvais jeu de mots de cette femme, bien, je suis très heureux d'avoir avec nous celui qui a été son avocat au cours de ce procès en première instance, Maître Michel Nunez, avocat au barreau de Périgueux. Bonjour Maître.
Bonjour.
Et c'est une cliente que vous n'oublierez pas, hein, je suppose, malgré une longue carrière et beaucoup, beaucoup d'affaires criminelles. Celle-là, vous la mettez où
Je crois que je la mettrai à part dans le panel de ma clientèle.
Oui.
C'est quelqu'un qui se situe hors la norme, hors la clientèle habituelle que j'ai pu rencontrer. Mais je crois que cela se situe également dans un contexte très particulier sur lequel, je pense, nous reviendrons.
Parce que, oui, bien sûr, mais...
Nous sommes complètement à la marge de ce que nous pouvions rencontrer dans le cadre d'affaires similaires.
Voilà, parce que il y a évidemment l'acte de cette femme et les raisons pour lesquelles, ça, vous nous éclairerez tout à l'heure, sur les raisons psychologiques, hein, qui ont fait que elle a voulu se faire prendre avec succès, en tout cas pendant 3 ans, pour une experte psychologue auprès des tribunaux. Mais il y a aussi les questions inévitables qu'on se pose, comment les juges d'instruction, les magistrats responsables des affaires familiales, comment tous ces gens ont pu non pas lui confier des expertises, mais surtout ne pas tiquer en les lisant, parce que on peut se dire que sans diplôme, ou alors là, les psychologues vont perdre leur latin. Et d'ailleurs, on aura à la fin de l'émission le point de vue et l'éclairage de Michel Agrapard Delmas, qui est elle-même psychologue, criminologue, expert judiciaire près de la Cour d'appel de Paris, et femme, qui nous dira comment elle réagit à tout cela. Vous voulez ajouter quelque chose,
oui,
maître?
Oui, je pourrais même également, en direct, si je puis dire, vous faire part de la position du juge aux affaires familiales lorsque j'ai découvert le dossier et que j'ai fait état de cette expertise qui m'apparaissait hallucinante, mais à l'époque, on ne savait pas encore que c'était une fausse experte. Et donc, je pourrais vous parler tout à l'heure de cette réaction.
Alors, maître Nunez, peut-être d'abord nous dire comment le poteau rose a été découvert.
Alors, le poteau rose a été découvert dans des conditions assez particulières parce que il y avait, au sein du couple que formait Madame Labeur avec son époux, quelques difficultés qui ont motivé des violences conjugales. Elle va déposer plainte et, lors du dépôt de la plainte, son audition est recueillie et son époux est ensuite convoqué.
Et mis en garde à vue.
Il est convoqué, mis en garde à vue, entendu sur les faits qui ont été dénoncés par son épouse, et dès lors, selon l'expression consacrée, il se met à table. Il parle, il explique, et il met à jour un système qui a complètement étonné, c'est le moins que l'on puisse dire, les policiers et le monde judiciaire, en expliquant que son épouse, depuis un certain nombre d'années, était expert près la Cour d'appel de Bordeaux, dans des conditions qui paraissaient parfaitement légales, puisqu'elle avait produit des diplômes qui relevaient totalement des universités et qui étaient d'une véracité extraordinaire. Et puis, démêlant les chevaux, les enquêteurs s'aperçoivent que, manifestement, les diplômes ont été fabriqués pour les besoins de la cause, avec de faux tampons, qu'ils ont été ensuite utilisés, qu'elle a obtenu, dans des conditions sur lesquelles, je pense, nous reviendrons,
oui, bien sûr,
le privilège d'être inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de Bordeaux. Ce faisant, elle a été désignée à de multiples reprises dans des procédures judiciaires et également des procédures criminelles. Et effectivement, dans le landerneau judiciaire, je crois, national, la question de la vérification des expertises, des experts, de leurs titres et autres, s'est posée.
Voilà, ça pourra peut-être faire un jour le scénario d'un épisode des experts qu'on n'a pas encore vu à la télé. Alors, on va retrouver maître Novakovic dans un instant pour parler du cas particulier, évidemment, qui lui a fait, à elle, découvrir cette affaire. C'est quand Sylvie Bossu est venue la voir pour lui dire, voilà ce qui m'est arrivé à la suite d'une expertise de cette femme. Eh bien, et même elle vous l'avait même demandé avant qu'on sache qu'elle était une fausse experte, mais elle avait perdu la garde de ses enfants. Ça a duré 3 ans, c'est une situation évidemment terrible, sur laquelle nous revenons dans un instant. Et bien sûr, tout au long de l'émission, comme chaque jour, vous pouvez utiliser le 3210 ou RTL.fr pour vos questions, vos réactions, vos témoignages.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Fausse experte. Vrai dégât, c'est l'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui à travers l'histoire de cette femme qui a berné donc pendant plusieurs années les magistrats du Sud-Ouest, hein, les magistrats de Dordogne, on peut dire, quoi, Bordeaux, Périgueux et peut-être d'autres tribunaux. On va y venir dans un instant avec mes invités. Donc je rappelle maître Michel Nunez, donc qui est avocat au barreau de Périgueux, et près de moi également maître Novakovic, qui m'a fait découvrir cette affaire. C'est à la suite d'une conversation qu'on a eue ensemble. Vous m'avez raconté l'histoire de votre cliente. Alors, qu'on comprenne bien les choses, vous, quand vous intervenez finalement dans cette affaire, c'est avant qu'on sache que Madame Labeur était une faussaire.
Tout à fait. En réalité, Madame, j'ai une femme qui s'appelle Madame Bossu qui est venue me voir, désespérée, en 2007, en m'indiquant, voilà, une décision m'a accablée, qui a été rendue en 2006, qui a transféré la résidence des enfants, de mes deux enfants, chez le père, suite à un rapport d'une horrible femme, si je vous cite les mots.
Elle était, pardonnez-moi votre cliente, elle était dans une procédure de séparation.
De divorce.
Difficile, quoi.
Difficile. Voilà. Alors, elle a obtenu au départ la garde, et d'un seul coup, suite à un rapport déposé par Madame Labeur, eh bien, le juge alerté et surtout inquiétée par ce rapport de Madame Labeur, a tout de suite transféré la garde des enfants chez le père en disant que l'expertise ne souffrait aucune contestation sérieuse dans son déroulement. Ouais. Et le juge disait bien, les conclusions de l'expert sont particulièrement alarmantes. Ouais. Donc tout de suite, sans réfléchir, le juge a transféré la garde des enfants chez le père. Mmh. Et la mère est venue me voir à ce moment-là. Ouais. Et lorsque j'ai découvert le rapport de Madame Labeur, j'ai moi-même été alertée, effrayée, parce que les propos tenus par Madame Labeur est extrêmement lourd. C'était un véritable réquisitoire contre ma cliente.
Ça sortait du rapport habituel d'un expert psychologue. Quoi,
complètement. En fait, ouais. Je vous donne juste un petit extrait. Madame Bossu se décrit comme une mère rassurante, attentive, ce qui n'est point le cas. La négligence émotionnelle qu'elle provoque chez ses enfants est à prendre en considération afin d'éviter toute entrave dans le bon développement et fonctionnement psychique et psychologique des enfants. Nous avons constaté aussi une négligence éducative avec absence d'attention ou d'intérêt à l'assiduité et au travail scolaire des enfants. Rajoutée à une négligence physique. Les enfants sont nourris en dépit du bon sens et des règles diététiques les plus élémentaires sont à prendre.
Ouais. Voilà, évidemment, on se met à la place du magistrat. Quand on lit ça, on se dit qu'il faut mettre ses enfants à l'abri. On va voir comment, parce que c'est intervenu dans la vie de Mme Bossu avec une brutalité extrême. Elle est tout au bout du fil. Bonjour Sylvie Bossu.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bon, alors, on va dire tout de suite, vous avez beaucoup souffert de cette situation. Est-ce que vous avez fini par tourner la page maintenant, avec le recul des années?
Pas tout à fait. Non, pas tout à fait encore. C'est très dur à avaler. Hein. J'ai du mal à tourner la page. Bon, heureusement que maintenant les enfants sont là et que la joie de vivre est revenue, si vous voulez. Mais mais il y a quand même encore quelque chose qui ça a cassé. Ça a cassé un lien.
Alors il y a une chose terrible. Moi j'ai vu ça en préparant l'émission ce matin. Je vous demandais maintenant de nous le dire pour vérifier si ce que j'ai lu est exact. Vous, un jour, vous avez un coup de fil à votre travail. On vous dit, on vous a enlevé vos enfants de l'école où ils étaient, sans vous prévenir.
Sans me prévenir, non. Oui, sans me prévenir, ils sont venus les prendre en plein cours.
Ils, c'est qui ils?
La police.
Oui.
La police en uniforme. Excusez-moi, je suis un petit peu.
Oui.
Ça panique un petit peu. Oui. Mais c'était très très dur parce que ils les ont amenés au commissariat et lorsqu'ils m'ont convoqué, lorsque je suis arrivée, ils étaient plus présents. Ils étaient partis avec le papa. Oui. Du coup, sans nanin, sans vêtements, sans rien du tout, comme ça. Oui. Et on m'a quand même mentionné que ça aurait été terrible de voir une mère être séparée des enfants et que ça aurait été insupportable dans le commissariat. Donc j'ai pas pu leur faire de bisous. Ça a été terrible. Ni d'appel téléphonique après, rien du tout, aucun contact. Ça a été très dur
à vivre, évidemment.
Oui. Bien sûr.
Alors on va vous retrouver dans un instant, hein, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser, mais je reviens là à Maître Novakovic. Donc elle vient vous raconter tout ça.
Voilà.
Vous lisez le rapport, vous trouvez qu'il est quand même très très étrange comme rapport. Qu'est-ce que vous dites? Pensez pas info, pensez simplement que c'est une psychologue qui a une personnalité.
Tout à fait, c'est plus que ça. Je me suis dit, mais attendez, là on est face à quelqu'un qui est totalement subjectif, qui a pris parti. Donc je me suis pas effectivement, j'ai même pas imaginé une seule seconde qu'il s'agissait d'une fausse experte. Mais en revanche, j'ai dit, écoutez, on va tout de suite saisir le juge. Donc j'ai saisi le juge de l'incident.
J'ai demandé une contre-expertise.
Tout à fait. J'ai demandé contre-expertise, enquête sociale et également bien sûr le transfert de résidence à nouveau chez la mère.
Oui.
Il s'avère que les enfants étaient victimes d'aliénation parentale et des experts l'ont décelé.
Aliénation parentale.
Ça veut dire qu'en réalité, le père interdisait aux enfants quelque part d'aimer la mère. Voilà, la mère était le mauvais objet. Mmh. Et ça a été confirmé par expertise, donc ça c'est vraiment dramatique. Et entre-temps, c'est ma cliente qui m'a appelée en me disant, écoutez maître, j'ai reçu un journal et je viens de voir que Madame Labeur était effectivement dans une affaire de fausse expertise, ce serait une fausse experte. Tout de suite, bien sûr, j'ai fait mes petites enquêtes, je me suis constituée en son nom partie civile devant le doyen des juges d'instruction et c'est depuis, effectivement, c'est pour ça qu'après je me suis acharnée, effectivement, pour que Madame Labeur soit condamnée et qu'on aille jusqu'au bout de cette affaire, mais bien sûr, je ne suis pas la seule victime, enfin, ma cliente n'est pas la seule victime, il y a eu beaucoup de victimes.
Alors, on va revenir au témoignage de Sylvie Bossu dans un instant, vous retrouvez également Maître Michel Nunes, parce que il y a des tas de questions, quand même, qui se posent, d'abord sur les mobiles de cette femme, elle vous les a forcément expliqués, puis surtout, quand même aussi, sur cet étrange dysfonctionnement, on va dire, pour être charitable, de l'institution judiciaire qui a pas pu voir quelque chose qui était quand même gros comme le nez au milieu de la figure, si vous me passez l'expression. On se retrouve dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
400 expertises, donc, en un peu plus de 3 ans, des expertises en cour d'assises, notamment dans le document qu'on a entendu, Jean-Marc Terrier le rappelait, d'un violeur en série devant une cour d'assises, mais aussi dans le cadre des juges aux affaires familiales, on commet quelquefois des experts, donc, pour vérifier la situation des enfants en cas de conflit familial au cours des séparations. C'est ce qui est arrivé à Sylvie Bossu, la fausse experte est venue la voir et a rendu un rapport tellement terrible qu'on lui a retiré ses enfants dans les circonstances qu'elle a racontées tout à l'heure. Sylvie Bossu, je reviens à vous. Maître Novakovic disait que vous l'appelez en disant « mais je viens de lire dans le journal que la psychologue en question, c'était pas une psychologue, vous avez dû tomber de votre chaise ».
Oui, je suis tombée de ma chaise. Au lieu d'être heureuse, j'ai pleuré en sanglots. Alors ça a été une réaction, parce que en fin de compte, tout ce qu'on essayait avec Maître Sylvie Novakovic de démonter, c'était arrivé. Ça prouvait vraiment qu'on avait raison, si vous voulez. Donc ça a été un réconfort, mais un soulagement, et je pouvais plus m'arrêter de pleurer.
Ouais. Et alors après, il y a eu une nouvelle expertise, hein, de toute façon, j'imagine, hein, puisque la première, elle a été frappée de nullité, dans tous les sens du terme. Et ensuite, vous avez récupéré vos enfants au bout de combien de temps?
Alors, en fin de compte, oui, tout à l'heure, vous aviez dit que j'avais été séparée 3 ans avec eux. Ça a été 4 ans.
4 ans, pardon.
Ça a été 4 ans. J'ai récupéré ma fille au mois de mars 2010 et mon fils au mois de septembre. Mais bon, c'est vrai que ça a cassé un lien. Mm. Pas avec ma fille. Bon, c'est vrai qu'elle est partie, elle avait 6 ans. Mm. Quand ils ont été enlevés par la police, elle avait 6 ans et mon fils avait 9 ans. Mm. Et quand ils sont revenus, bon, ma fille était beaucoup plus proche de moi, mais mon fils, il a quand même mis 1 an et demi à me prendre la main ou à me faire la bise, juste pour me dire bonjour. Et m'appeler maman.
Vous lui en voulez beaucoup à cette femme ?
Beaucoup. Elle a vraiment bousillé la vie, mais même de mes enfants, de ma famille, parce que mes parents, enfin tous ceux qui étaient proches de moi, ils auraient pu avoir un doute, tellement que ça a mis du temps. Ils auraient pu avoir un doute, et puis de la violence dont les enfants sont partis, tout ça, donc voilà, ça a gâché beaucoup de vie dans mon entourage.
Je vous remercie d'avoir quand même rappelé ces mauvais souvenirs, mais c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Maintenant, bon, la page quand même est tournée, même si évidemment on n'oublie pas ce genre de choses. Mais enfin, écoutez, on vous souhaite plein de bonheur pour les années qui viennent. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a du bon qui reste à venir.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir. Alors, on va revenir, Maître Novakovic, après sur le procès, etc. Mais d'abord, je voudrais m'adresser à Maître Nunez. Les motivations de cette femme. En tant qu'avocat, alors je sais pas, je suis pas avocat, vous allez avoir à la défendre, alors vous lui avez. C'est la première question que vous lui avez posée,
attendez,
non?
En tant qu'avocat.
Qu'est-ce qui vous a pris?
En tant qu'avocat, avant, effectivement, qu'elle ne me rende visite pour que je la défende, elle avait chargé un avocat très connu au plan national d'être son porte-parole devant les tribunaux. Ouais. Elle vient me voir et elle m'explique une situation qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait fait beaucoup de bruit dans le Landerneau, Périgourdin et judiciaire national. Et puis, j'étais extrêmement étonné lorsque je l'ai vu, parce que je m'attendais à quelqu'un qui avait une autre dimension psychologique. Et je me suis trouvé confronté à une personne qui était, ordinaire, simple, et qui, véritablement, c'est la question que je me suis posée ensuite, se rendait compte d'une manière très limitée de ce qu'elle avait pu faire et de l'importance peut-être des dégâts qu'elle avait pu causer.
Ah, d'accord.
Alors, c'était, et d'ailleurs, c'est parfaitement rappelé, parce que l'enquête ou l'examen psychologique qui avait été fait à la demande du magistrat instructeur à Toulouse avant que la procédure ne vienne devant le tribunal correctionnel, il avait été noté que effectivement, elle avait un sentiment toute puissance, mais surtout qu'elle ne reconnaissait pas l'insuffisance qualitative de son travail.
Donc, elle disait, j'ai bien travaillé, voilà, quoi, voilà. Je n'ai pas les diplômes, mais je suis passionné en psychologie.
Voilà, et lorsqu'elle venait déposer, ouais, par exemple, devant la cour d'assises de la Dordogne, devant les cours d'assises dans le cadre de procédures criminelles,
ouais,
on avait l'impression qu'elle connaissait parfaitement la matière et qu'elle était parfaitement, ouais, compétente. Pour s'apercevoir ensuite, c'est ce que les spécialistes ont expliqué, que finalement, c'était une espèce de QCM qu'elle utilisait, et avec une trame qui
QCM,
était...
QCM, c'est question à choix multiple.
Voilà, hein, absolument, absolument.
Elle avait une espèce de grille de questions.
Voilà, elle avait une espèce de grille, et elle avait une espèce de trame dans ses expertises,
ah oui,
qui était quasiment systématiquement la même. Mais ce qui posait difficulté, je m'en suis moi aperçu, ouais, ensuite préparant le dossier et relisant certaines de ses expertises, ouais, c'est ce que ma consoeur Sylvie Novakovic a très bien expliqué, ouais, c'est que pour un expert, on avait quand même le sentiment que l'objectivité devenait une forme de subjectivité. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, non mais je vous vois sourire, mais c'est vrai,
oui,
on avait l'impression,
ouais,
dans ces, ouais, rapports qu'elle prenait, ouais, intrinsèquement parti pour un des protagonistes, ouais, au lieu de présenter au juge chargé de statuer, oui, le pour et le contre,
bien
de
sûr,
la matière qui lui était soumise.
Sûr,
et alors,
oui,
on avait l'impression que c'était des rapports d'expertise, je l'ai découvert ensuite, à charge,
oui,
et ce qui m'a conduit personnellement, mais je n'ai plus d'interrogation depuis 35 ans que je suis avocat, au fait que je n'ai pas compris comment, voyant la subjectivité des rapports, on n'est pas pu s'interroger, ouais, sur leur bien fondé, ouais, et sur leur qualité.
Ouais. Bah,
c'est un peu le problème. C'est ce, ouais, que
vous
c'est ce
posez
qui a été
la
décrit.
Même, que, la,
oui,
même question, maître Dergovic.
Mais complètement, parce que quand j'ai vu ce rapport, je me suis dit, mais comment le juge a-t-il pu transférer la résidence sans se poser de questions, sans prendre le soin de demander une contre-expertise?
C'est fou quand même.
C'est fou.
Ça. Alors, il paraît qu'elle a été soulagée, qu'elle dit qu'elle a été soulagée d'avoir été dénoncée, que ça s'arrête finalement. Elle l'a redit à son procès, ça
ou... Elle l'a pas vraiment dit.
Alors,
hein,
vraiment, non,
non, mais attendez, elle l'a pas, oui, vraiment dit, sauf, oui, qu'elle a quand même considéré que le fait, effectivement, d'avoir été, permettez-moi l'expression, prise,
oui,
était quand même... peut-être pas une forme de soulagement, mais une espèce de libération morale, quand même.
Oui, elle a dit, il n'avait qu'à m'arrêter avant.
Voilà, voilà. Elle a dit, non, mais ce qui était étonnant, elle a dit qu'elle n'aurait pas pu continuer parce que elle se rendait compte qu'elle était au bout du chemin et que les limites, ouais, avaient, ouais, été atteintes, ouais, et qu'elle allait être tôt ou tard démasquée.
Ouais.
Et c'est vrai, elle a dit qu'ils auraient pu l'arrêter avant, mais d'un autre côté, bon, je pense qu'on en parlera peut-être, se poser la question de certains contrôles qui...
Bah, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants, d'abord parce que ça vient à l'esprit de tout le monde et ça nous arrive au 3210 et sur RTL.fr. À la fois, pas mal d'auditeurs qui disent, mais il faudrait peut-être réformer ce système administratif français, mmh, mais surtout beaucoup d'autres qui disent, mais comment ça a été possible simplement qu'aucun magistrat qui lise vraiment les rapports d'expertise.
Voilà.
Hein. Voilà, bon, c'est brutal, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une pause donc et on se retrouve tout de suite après.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Au-delà de l'histoire de cette femme qui a donc réussi à tromper son monde pendant plusieurs années avec ses 400 expertises comme expert psychologue auprès des tribunaux, les faussaires ne manquent pas, hein, on le sait tous, beaucoup de charlatans, beaucoup de d'exercices illégaux de la médecine, donc des faux médecins, des faux policiers, quelquefois même des faux évêques, des faux directeurs d'aéroport, enfin bon, et nous avons trouvé avec Margot Agnès, dans les archives sonores de la rédaction d'RTL, une autre histoire, et c'est quand même très troublant, parce que celle-là, elle remonte à 1991, et vous allez entendre Philippe Robuchon raconter, c'était le 5 décembre 1991, l'histoire d'un charlatan qui se faisait passer pour un expert psychologue, lui aussi, à la suite d'une de ses expertises, d'ailleurs, cinq truands bordelais avaient été condamnés à de très très lourdes peines en 1985, et ça se passait donc du côté de Bordeaux aussi.
Pour tromper son monde, ce charlatan a l'imagination débordante, s'était d'abord affublé d'un patronyme plus ronflant. De son vrai nom, Gérard Payset, il se faisait passer pour un certain Philippe Payset d'Espagnac. Ça sonne mieux en pays gascon. Ensuite, pour être plus crédible, il affirmait être cousin de Pierre Arpaillange, ancien garde des Sceaux. Invraisemblable supercherie qui sera découverte trop tard. Payset ne sera condamné qu'à la fin 90. Auparavant, il aura eu le temps de faire le beau devant les tribunaux, d'être désigné comme psychologue dans l'affaire de la tuerie de Belade. Durant toute l'instruction autour de ce triple assassinat, c'est lui, l'escroc, qui sera chargé de cerner la personnalité des meurtriers et de venir en personne devant la cour d'assises des Landes apporter l'avis d'un expert. Les cinq malfaiteurs bordelais devront être rejugés, mais ce n'est pas tout. Le sieur d'Espagnac pourrait encore ennuyer la justice, car cet usurpateur aurait brillé dans bien d'autres procès.
Alors, je rappelle que dans quelques minutes, on aura au téléphone Michel Grappard, qui est expert, psychologue, criminologue auprès de la Cour d'appel de Paris, etc. Mais d'abord, il y a une question centrale. On va prendre quelques minutes pour en parler, parce que c'est quand même le cœur de la question avec vous, Maître Novakovic, et puis aussi avec Michel Nunez. La justice a reconnu quand même qu'il y avait une faute ou pas ?
Pas du tout. Je dirais pas du tout, en ce sens que lorsque l'affaire était en instruction et que j'ai demandé donc bien sûr le transfert de résidence des enfants chez la mère, eh bien en aucun cas dans le jugement on ne voit une reconnaissance. Une reconnaissance effectivement de la fausse expertise qui a été déposée, et simplement on transfère en se référant aux autres rapports d'expertise qui disaient bien que les enfants voulaient bien sûr vivre auprès de leur mère et vivaient une aliénation parentale
et
du
ça,
père.
C'est un cas sur 400. On n'a pas refait les 400.
Le garde des Sceaux avait à l'époque indiqué qu'en aucun cas cette affaire n'allait faire réviser les autres dossiers. Ouais. Et moi j'avais indiqué à un journaliste qu'il était hors de question que je me plie à ça, ouais. Et que bien sûr, moi j'irai jusqu'au bout. Et je suis allée jusqu'au bout. Non seulement ma cliente...
Mais vous n'avez pas été seule, il y avait 24 plaignants. Hein,
non, mais je parle pour obtenir le transfert de résidence.
Ah oui, pardon.
Parce que beaucoup de gens baissaient les bras.
Ah bon ?
Oui, parce que comme le garde des Sceaux avait dit qu'il n'y aura pas de révision suite à ça, et ben, les gens vont baisser les bras, n'ont rien fait. Et ça, c'est scandaleux. Moi, il était hors de question que je ne fasse rien. Il y avait des enfants qui étaient en souffrance, une mère en souffrance. Et donc, j'ai obtenu ce transfert de résidence avant même que Mme Labeur soit condamnée.
D'accord. Alors, Maître Nunez, votre opinion là-dessus, parce que
mon opinion là-dessus, elle est excessivement simple. On le disait en micro tout à l'heure. La question s'est posée devant le tribunal correctionnel de savoir s'il n'y avait pas eu un dysfonctionnement de la machine judiciaire, ouais. Et notamment des filets qui normalement auraient dû empêcher que de tels agissements ne soient commis. Ouais. Et lorsque l'affaire est venue donc à l'audience, le président du tribunal correctionnel, autant qu'il m'en souvienne, a semblé à un moment laisser entendre qu'effectivement, il était anormal que la machine judiciaire n'ait pas pu contrôler depuis un certain nombre d'années. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être inscrit sur la liste des experts, il y a un certain nombre de critères à respecter. Il y a deux listes d'experts. Il y a ce que l'on appelle la liste nationale, près la Cour de cassation, où on a des experts particulièrement compétents dans leur domaine qui ont également compétences nationales sur toutes les cours d'appel. Et il existe ensuite une liste auprès de chaque cour d'appel. Oui. Et les conditions d'inscription auprès de chaque cour d'appel, pour un expert, fût-il un expert en bâtiment, un médecin ou autre, sont extrêmement drastique, parce que les contrôles normalement doivent être opérés de manière très sérieuse. Et on voit par exemple, quand on lit les dispositions légales que j'ai sous les yeux, ce sont par exemple les dispositions découlent du décret du 23 décembre 2004 qui a été modifié par celui du 19 juillet 2007, on s'aperçoit qu'il y a un dossier qui est déposé auprès du procureur de la République, du tribunal près lequel vous habitez et qui ensuite transmet à la cour d'appel.
Oui.
Et on s'aperçoit ensuite qu'il y a des vérifications qui sont opérées par le même procureur de la République concernant les diplômes dont vous prévalez, de telle sorte que si vous faites une demande d'expertise en disant « je suis spécialiste en peinture du 18e siècle », on va vous demander vos critères.
Quand même vérifier,
voilà, il y a des vérifications. Et dans ce cadre-là, le dossier remonte ensuite à la cour d'appel, après qu'une enquête de gendarmerie et autres a été effectuée.
Ah oui, parce qu'il faut aussi avoir un casier judiciaire.
Voilà, il faut également ne pas avoir été condamné et surtout ne pas avoir fait l'objet, c'est une des conditions essentielles du décret, d'une procédure de liquidation judiciaire.
Alors, c'était le cas de votre cliente.
Voilà, et vous avez raison.
Alors, elle avait été, elle avait été chauffeur de taxi, elle avait été comptable, je crois, pour son ex-compagnon.
Et ambulancière.
Voilà. Et elle avait été, je crois, interdite, elle avait fait faillite.
Voilà, alors, lorsqu'on a effectivement pris connaissance du dossier, et lorsque le magistrat instructeur, le magistrat instructeur à Toulouse continuait ses investigations, moi je me suis étonné de découvrir qu'elle a fait l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire et que malgré cette procédure, elle avait pu être inscrite sur la liste des experts. Et c'était la question du filtre qui s'est posée. Les vérifications avaient-elles été justifiées ? Alors, je termine parce que j'avais demandé à l'époque à la chambre de l'instruction qu'on procède à l'audition des magistrats qui étaient en poste à la cour d'appel de Bordeaux au moment de son inscription. Ils ont été entendus. J'avais demandé, entendu par les enquêteurs, j'avais demandé à ce que le magistrat instructeur les convoque. On m'a expliqué que leur convocation était inutile et que on en avait suffisamment dans le dossier. Voilà les éléments. Alors, dont acte, ouais. Et la question est la suivante. L'institution judiciaire, je ne dis pas qu'elle s'est protégée, ouais. Mais a-t-elle voulu reconnaître quelquefois ses errements ou ses manquements?
La réponse est non.
Voilà.
Ça, c'est clair.
Mais sinon, on a la réponse.
C'est clair. On va faire une pause et puis après, je vous donne la parole, Maître Novakovic, et puis on entendra Michel Agrapard, évidemment, parce que, évidemment, on a envie de savoir comment vous avez plaidé, comment, qu'est-ce qui s'est passé quand même concrètement aussi pour Madame Bossu et pour les autres. Et on se retrouve dans un instant, donc c'est vraiment une histoire incroyable. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors on va reparler de cette histoire absolument incroyable à travers maintenant le regard d'une grande spécialiste également, experte auprès de la Cour d'appel de Paris. Elle est psychologue, criminologue, Michel Agrapard. Bonjour madame.
Bonjour Jacques Pradel, vous allez bien?
Mais alors nous très bien, oui. Il faut dire aussi que malgré les dégâts, parce que là vous avez entendu hein, les 400,
oui, tout à fait.
Il y a quand même eu des dégâts et des choses que il y a eu 23 victimes quand même qui étaient là et qui ont dit elle a brisé notre vie quand même. Donc ça c'est on a moins le sourire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, vous?
Oh ben je pense qu'il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux, parce que pour déjà poser une candidature comme expert, je pense que l'avocat que nous venons d'entendre a parfaitement exposé toute la procédure juridique qui conduit à être agréé. Moi je suis en cassation. Hein.
Ouais. Moi, je alors crois en cassation, que... on a vérifié vos diplômes, enfin où on vous croit sur parole.
Oh non, on me croit pas du tout sur parole. D'abord, je suis une vieille blonde, on croit jamais les vieilles blondes sur parole, vous savez bien. Mais non, pas du tout. Mais il faut déjà avoir fait, au coup par coup, non pas des expertises, mais des enquêtes sociales. Je pense que cette malheureuse dame qui a perdu la garde de ses enfants, il s'agissait non pas d'une expertise, mais d'une enquête sociale. Peu importe, mais il faut déjà en avoir fait, je dirais, sincèrement au coup par coup, avant de pouvoir déposer sa demande. Tous les diplômes sont vérifiés, à tous les niveaux, une enquête de moralité par la gendarmerie ou la police, etc.
Il faut publié également ou pas? Est-ce qu'il faut avoir publié? Est-ce qu'il faut avoir publié, par exemple?
Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, moi, j'ai enseigné en fac, donc j'avais, par obligation, je dirais, fait quelques publications, mais c'est pas là-dessus, je crois, que la décision se prend. Et puis, nous avons une période probatoire de plusieurs années, pendant lesquelles il faut suivre des formations, etc. Il y a des experts qui n'ont pas été réinscrits parce qu'ils n'avaient pas suivi des formations pendant leurs années probatoires.
D'accord, donc c'est quand même très suivi, quand même,
Normalement, il faudrait. Vous savez, ceci dit, il y en a des experts comme de n'importe qui. Il y en a des bons, il y en a des pas bons, il y en a des très mauvais.
Oui, mais enfin, si leurs diplômes sont bons. Non, les diplômes, c'est pas.
Vous savez, vous avez des chirurgiens qui ont les mêmes diplômes que le voisin et qui opèrent comme des cochons aussi. Donc, c'est pas seulement lié au diplôme.
Enfin, ce qui rassure le patient, c'est qu'ils ont fait quelques années d'études quand même.
Tout à fait, mais c'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs. Ouais. Donc, moi, vous savez, il y a quelques années, j'avais expertisé un faux avocat. Il était bluffant. Il a donc été condamné, etc. Puis quelques années après, je vais au palais de justice et je le vois. Dans les couloirs du palais de justice de Paris, il était en robe. J'étais complètement sidérée, puisqu'il avait été... J'étais tellement facile que, comme une idiote, je lui dis « Bonjour, maître ». Et il me répond « Bonjour, madame l'expert ». Je lui dis « Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas possible, vous n'êtes pas avocat, vous avez été condamné, etc. » Il me répond « Je plaide à la une ». Je lui dis « Vous ne pouvez pas plaider, vous n'êtes pas avocat ». Il me dit « Mais vous savez, à Paris, personne ne vérifie jamais nos qualités. Il y a tellement d'avocats et tellement de gens. » Voilà. Eh bien, je pense que pour les experts, c'est pareil.
Hein. Je reviens à vous dans deux secondes, parce que là, je vois Maître Nunez et Maître Novakovic qui ont envie d'entrer dans la conversation. Maître Nunez.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, maître.
Oui, vous rappelez les conditions particulièrement difficiles d'inscription sur la liste des experts, et vous avez tout à fait raison, puisque les dispositions légales le prévoient. Mais j'ai oublié de préciser, et c'était un élément un peu intéressant dans notre dossier, que vous devez connaître également particulièrement, c'est qu'avant que Madame Labeur ne soit inscrite officiellement sur la liste des experts près la Cour d'appel de Bordeaux, elle avait été conduite à la demande de magistrat périgourdin à effectuer des expertises à deux ou trois reprises alors qu'elle n'était pas inscrite. Et vous savez que...
ça c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prouver ce que l'on sait faire.
Voilà.
Avant d'accord. De... Voilà. Donc elle avait là déjà prouvé ce qu'elle savait faire.
Voilà. Vous avez...
Mais
vous avez...
cette femme, elle travaillait comme psychologue. Oui, alors, elle était, je sais pas,
non,
elle avait un cabinet, elle travaillait quelque part.
Elle n'était qu'expert.
Juridiquement, il faut...
Oui, juridiquement.
Oui, non, mais juridiquement, vous avez raison, il faut avoir un vécu.
C'est pas un métier en soi. On ne peut pas faire que de l'expertise.
Oui, mais
travailler
oui,
par ailleurs.
Oui, oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais la question
là,
s'est posée.
Il y a eu dès le départ des dysfonctionnements à tous les niveaux.
Oui, mais oui. Mais ça va qu'en fait, à cette époque, les juges d'instruction, en fait, manquaient d'experts. Ils avaient un problème de carence. Et donc, quelqu'un lui a dit, moi, je connais une très bonne experte qui pourra vous dépanner là-dessus.
C'est le bouche à oreille après.
Elle a donné satisfaction aux juges d'instruction qui, je pense, a eu des rapports très favorables, qui allaient dans le sens de son dossier, certainement. Et depuis, il y a eu plein d'expertises qui ont été confiées.
Qu'elle-même était persuadée d'être expert, d'être psychologue.
Alors ça, c'est ce qu'elle a laissé entendre, effectivement. Oui,
je crois aussi...
Sa force de persuasion, la persuasion personnelle est plus forte que la réalité des faits. Elle était certainement sincère dans ce qu'elle faisait.
Oui, vous avez raison, mais vous avez également raison, et je fais mienne vos observations quand vous rappelez les conditions d'inscription sur la liste, qui me paraissent extrêmement difficiles, extrêmement drastiques, et quand vous expliquez que le filtre n'a pas fonctionné. C'est la question que tout le monde s'est posée.
Bon, à votre avis, dans tous les magistrats que vous avez vus, il n'y a que des vrais magistrats, Michel Agrapin.
J'ai en général d'excellentes relations avec eux, je l'espère. Je l'espère, de même qu'avec tes avocats d'ailleurs, j'ai de bonnes relations.
Je vous remercie.
J'espère que cet avocat, vous l'avez dénoncé.
Merci à vous tous.
Je vous remercie beaucoup. Merci,
Jacques,
merci infiniment, Michel Agrapin. Alors, Maître Novakovic, on revient là-dessus. Quelle leçon on peut tirer de tout ça? On ne va pas faire une réforme générale du système administratif français à cause de cette histoire, même si elle n'est pas unique.
Non.
Mais...
Alors, pas une réforme, mais je pense qu'on peut alerter aujourd'hui les procureurs pour leur demander d'être plus vigilants, finalement, dans leur choix. Il est évident qu'une telle affaire aussi dramatique qui aboutit, heureusement, pour ma cliente, à une indemnisation de son préjudice, il faut savoir toutes ces années perdues, et il n'y a pas qu'elle, il y a quand même 23 victimes. Ouais. Donc, et plus que ça même, parce que ça, ce sont ceux qui se sont constitués en correctionnel. Donc c'est pour ça que objectivement, il faut absolument beaucoup de vigilance. Vous avez vu que normalement, il y a quand même beaucoup de filtres, ce que nous a expliqué madame l'expert à l'instant.
Ouais.
Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire heureusement et malheureusement pas de possibilité de réforme. Je ne vois pas quelle réforme pourrait aboutir aujourd'hui si ce n'est qu'on demande la vigilance des procureurs de la République.
Ou ça nous amène à un autre domaine beaucoup plus vaste, Maître Nunez, c'est la responsabilité des magistrats peut-elle être mise en cause quand même.
Alors
moi je me mets à la place des gens d'affaires jugées, on dit bah oui, non, mais ce qui était jugé, on revient pas dessus. Mais attendez, l'expert qui est venu m'analyser, c'était une faussaire.
Oui, je crois que je ferai deux observations. La responsabilité des magistrats, il y a eu des modifications qui permettent aux particuliers, sous certaines conditions, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
Voilà, c'est le ministère de la Justice qui
dans des conditions très particulières. Et deuxième observation sur les expertises qui me paraît, je crois, intéressante et devoir être faite, c'est que l'expertise est souvent devenue l'alpha et l'oméga d'une procédure judiciaire, quelle qu'elle soit, pénale, civile ou autre. Et on s'aperçoit, et on a critiqué depuis un certain nombre d'années, qu'on a de plus en plus affaire à une justice d'experts, et que les magistrats, et je ne mets pas en cause leurs compétences, loin de là, sont souvent dépassés dans des domaines très particuliers, et on recourt à l'expertise, on recourt aux techniciens qui essaient de démêler les chevaux et de nous éclairer.
Alors, voilà, continuons à avoir confiance en la justice de notre pays. Merci beaucoup, Maître Novakovic.
Je vous en prie, c'est avec
merci,
plaisir, à bientôt.
Maître,
je vous
remercie. Merci infiniment, l'émission est terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans un petit instant.